Radio Kapi. Oh, Kapi.
En direct des Kinshasa, il est 18h. Voici un nouveau journal sur Radio Kapi. 5 morts, dont 3 civils et 1 soldat. Bilan de l'attaque des ADF ce matin sur un convoi de véhicules escortés par les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO à Katabey dans les territoires du Rumoin en Ituri. Toutes les dispositions sont prises pour mettre fin en mars prochain aux ponctions directes sur les unités des abonnés au titre de registre des appareils mobiles RAM, annonce faite lors du conseil de ministres tenu hier ici à Kinshasa. Notre invité, c'est le chef de bureau de la MONUSCO pour le Sud Kivu et le Maniema. Karna Soro précise qu'à ce jour, les FARDC font un travail remarquable dans le secteur de Bibokoboko et que la MONUSCO ne intervient qu'en cas de besoin. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Massirika, mise en onde de Mimi Kindou. En Ituri, un convoi de véhicules civils escortés par les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO a été attaqué ce matin par des rebelles ougandais de l'EDF au village de Katabey dans les territoires du Rumu. Le bilan provisoire dressé par des sources locales fait état de 5 morts, dont 3 civils et 1 soldat. Les FARDC précisent que 8 rebelles ont été neutralisés et 4 armes récupérées. À Bounia, le récit d'Isaac Remoyope.
Ce convoi de 20 véhicules était parti de Luna pour commander sur la route nationale numéro 4 où il est tombé dans une embuscade des rebelles ADF au village de Katabey. Ces derniers ont ouvert les feux sur le convoi. Un chauffeur et des passagers sont morts. Selon des sources onisiennes, les casques bleus sud-africains de la MONUSCO aux côtés des FARDC ont riposté et réussi à repousser cette attaque. Le porte-parole de l'armée en Ituri précise que 8 rebelles ADF ont été tués et 4 armes récupérées. Le lieutenant Gilles Ngongo ajoute que la zone est sous le contrôle des FARDC qui sont toujours à la poursuite de l'ennemi.
Les forces armées ont détruit méchamment cette embuscade dont le bilan fait état de 8 éléments de ZADF neutralisés et 4 armes de type AK-47 récupérées lors de cette embuscade tendue par ces renégats qui sont à la quête ou qui mènent les opérations de survie. Pour le moment, la situation est sous contrôle des forces armées. Nous sommes dans les opérations de poursuite à Luna où ces embuscades ont eu lieu.
Signalons que certains véhicules ont stationné au village de Buanasura sous la protection des FARDC en attendant les opérations militaires dans la zone. D'autres ont rebroussé chemin à Luna à la limite entre l'Ituri et le Nord Kivu et à Eringeti. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Autre région, autre drame. Au sud Kivu, des Maïmaï ont attaqué hier vendredi la localité de Bibogobogo dans les moyens plateaux du territoire de Fizi. Bilan, selon le commandant du régiment des FARDC dans la région, 2 soldats tués, 7 miliciens tués et beaucoup de maisons incendiées. À Ouvira, Fiston Gumamayabala.
Selon le commandant de FARDC Bibokoboko, les assaillants identifiés comme une coalition de miliciens Maïmaï, Yakutumba, Bilozebi, Chambouke et Kibukila se sont repliés vers Mukolo et Lueba au nord et Kalele et Kafulo au sud. Ces miliciens pourraient contre-attaquer à tout moment, souligne-t-il. La même source rassure que les opérations militaires se poursuivent alors que d'autres factions Maïmaï sont regroupées avec l'objectif de lancer l'assaut sur Bibokoboko. Vendredi tôt le matin à 5h locale, la coalition de Maïmaï des villages de Mukolo et Lucinda Lueba a lancé l'attaque contre les villages de Bibokoboko. Des sources locales affirment que les habitants de ces villages ont quitté leur maison et se sont rassemblés près du quartier général de FARDC pendant que des armes lourdes se faisaient entendre dans la partie nord du village. Le chef de la localité, David Ngerumukiza, indique que les zones les plus touchées sont Magaja et Bivumu, entre 5 et 10 km au nord de Bibokoboko. D'autres sources locales signalent qu'une autre faction de Maïmaï s'est déplacée de Kalele et Kafulo vers le sud pour un débordement près de l'école primaire de Bibokoboko. Pour l'instant, un renfort du 2200 et 2e régiment de FARDC en provenance de Baraka a été déployé d'Ouvira Fiston Mamayabala Radio Kapi.
Dans le Sankuru, suspension de l'administrateur du territoire de Lodja. Ainsi en a décidé à Kinshasa le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Daniel Asselo reproche à l'administrateur du territoire de Lodja d'avoir attribué une portion de terre au secteur de Mvungé, au secteur de Nambé Belou en violation des limites, une situation qui a créé des troubles causant mort d'homme, des blessés et l'incendie des maisons. En Mbujimayi, Esther Ndalafina.
L'administrateur du territoire de Lodja, Médard Elongué, est suspendu de toutes ses fonctions par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Selon le média en ligne électionstrèsnet.com, il est reproché à Médard Elongué d'avoir attribué une portion de terre du secteur de Vungé dont il est originaire au secteur de Nambelou dans une lettre datée du 21 mai 2021. D'après le ministre de l'Intérieur, cette décision est illégale car elle a semé des violences graves et l'incendie de plusieurs maisons et autres biens de la population. Dans son arrêté, le ministre de l'Intérieur déplore aussi le fait que l'administrateur de territoire n'avait pris aucune mesure préventive suite aux menaces autour des conflits fonciers qui sévissaient dans sa juridiction depuis le 8 février en cours. Pourtant, il en était informé. Rappelons que c'est depuis le week-end dernier que les affrontements sanglants opposent les habitants des secteurs de Vungé à ceux de Nambelou. La société civile de Lodja avance jusque-là le bilan de près de 60 morts, 26 femmes violées, 31 enlevées, 12 enfants tués, plus de 1000 personnes déplacées et une dizaine de villages vidés de leur population. Un bilan toujours rejeté par l'administrateur de territoire qui parle de 4 morts, d'un village désert et près de 100 maisons incendiées ainsi que de 4 personnes arrêtées. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Justice populaire dans la province du Kwilu. Au moins 11 personnes ont été tuées depuis le mois de janvier dernier dans plusieurs secteurs du territoire de Gungu. C'est le président de la société civile qui tire la sonnette d'alarme. Joachim Kusamba affirme à Radio Okapi que des vieillards sont accusés par des jeunes d'être à la base du décès des membres de leur famille. Il sollicite par conséquent l'implication des autorités pour mettre fin à cette pratique. La nouvelle est confirmée par le commandant de la police à Gungu, à Bandundouville, Irène Boma.
La justice populaire est devenue monnaie courante ces derniers temps dans les territoires de Gungu au Kwilu. Déjà, 11 personnes sont tuées depuis le début de cette année, dont 9 au mois de janvier et 2 en février courant. Ces personnes, dont 10 de troisième âge, sont accusées de sorcellerie par les jeunes gens qui leur donnent la mort par coup de bâton ou de machette. Le dernier cas en date, c'est celui survenu le 15 de ce mois. Joachim Kusamba, président de la société civile de ces territoires qui dénonce, déplore vivement ces taux élevés de criminalité et un appel à la responsabilité des autorités attitrées. Cette information est confirmée par le commandant de la police de Gungu, le colonel José Kaputu.
C'est que les habitudes, les us et coutumes ici, lorsque il y a un décès d'un jeune homme ou d'un enfant, donc si vous êtes un oncle ici, vous devez faire attention. Au mois de janvier, nous avons déploré 9 cas. Et maintenant, nous sommes déjà à 3. Et quand ces gens-là tuent, ils se déplacent, ils partent vers les autres provinces. Et quand ils vont là-bas, ils passent quelques mois, ça, ils reviennent. Personne ne porte plainte. Nous ne savons pas comment possible.
Joachim Kusamba appelle la population, surtout les jeunes, à bannir cette pratique de la justice populaire, mais à saisir les instances judiciaires pour trouver gain de cause en cas de problème. Irène Boma, Bandundouville, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a annoncé au Conseil des ministres d'hier vendredi que toutes les dispositions sont prises pour que cesse définitivement à partir du 1er mars prochain toutes les ponctions directes sur les unités des abonnés au titre de rémunération au service dit registre des appareils mobiles RAM. D'ici à cette échéance, indique le compte-rendu du Conseil des ministres, ce temps sera mise à profit pour mener des travaux techniques de paramétrage dans la base des données pour qu'il n'y ait plus de ponction de ces données. Explication avec vous, Noël Alouzi, Tupakabambi.
Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a pour ce faire soumis au Conseil des ministres le projet de décret fixant les modalités de calcul et les taux des revenus des prestations de l'autorité de régulation du secteur des télécommunications. Selon lui, ce projet de texte est une réponse aux cris de détresse du peuple congolais face au prélèvement de ses unités de communication et aux recommandations pertinentes de l'Assemblée nationale. Cette mesure vient à la suite de la décision gouvernementale portant suspension de la perception du taux de 1 dollar américain pratiqué sur tous les appareils mobiles de deuxième génération DG, décision prise en octobre 2021. Pour rappel, le gouvernement de la RDC avait instauré depuis 2020 la taxe sur l'usage de téléphones. Cette taxe visait à lutter contre les téléphones contrefaits et protéger ainsi les données téléphoniques de tous les Congolais. En décembre 2021, la Commission économique, financière et contrôle budgétaire, ECOFIN, de l'Assemblée nationale avait demandé la suppression du registre des appareils mobiles RAM femmes sur toute l'étendue du territoire national. La Commission économique et finances et bonne gouvernance du Sénat avait aussi proposé la suppression immédiate de cette même taxe.
On enchaîne avec le Nord Kivu où des centaines de sinistrés de l'éruption volcanique du 22 mai 2021 sont toujours installés dans le site provisoire de l'école primaire de Kayembe dans le territoire de Nyiragongo. Certains ménages ont reçu du HCR, le Fonds au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des fonds à travers la Caritas pour se loger dans la cité. C'est ce que nous explique à Goma Sifamagrou.
D'après la société civile de Nyiragongo, ces ménages cohabitent toujours avec les activités scolaires rendant ainsi difficile le fonctionnement de l'école sans évoquer les conditions hygiéniques déplorables dans ces sites. Thierry Gassissiro, secrétaire technique de la société civile de Nyiragongo, explique.
Voilà, c'est tout un problème parce qu'ils sont là. Les élèves, ils doivent étudier. La cour de récréation est occupée par ces sinistrés qui ne savent pas où aller. C'est vraiment un problème. Ils ne sont pas assistés, ils n'ont pas de vivres, il n'y a pas de l'eau, ils n'ont pas de structure sanitaire. C'est vraiment un problème.
Toute la question est de savoir pourquoi la lenteur dans le processus de relogement de ces personnes. Pour un élu de Nyiragongo, la gestion des sinistrés pose encore un problème à Kayembe, déplore Olivier Kakoti. Il convient de rappeler que la coordination technique pour la réponse humanitaire qui gère cette question avait promis de trouver une solution pour toutes ces familles en attendant leur délocalisation définitive. La société civile déplore également la lenteur dans les travaux d'urbanisation de la concession Kibaya, un groupement Bouhumba prévu par le gouvernement pour accueillir de manière générale tous les sinistrés. Goma, Sifamagouro, Radio Okapi.
Autre nouvelle, au Lomami, près de 750 paysans ont reçu jeudi après-midi de l'Agence belge de développement des intrants agricoles. La cérémonie a été présidée en Gandajika par Séraphin Kalombo, ministre provincial de l'agriculture et développement rural. Pour en parler, retrouvons Mboujimaï Esther Ndalafina.
Ces intrants et équipements agricoles sont constitués de 9 machines égraineuses, 9 paires de vaches, 16 motos de marque Bajaj, 60 brouettes, 50 vélos, 4 tracteurs, 120 machettes et coupe-coupe. Le ministre provincial de l'agriculture qui a présidé la cérémonie a indiqué que le but de cet appui de l'Agence belge de développement ENABEL est de réduire la pauvreté, d'améliorer la production locale et les déficits alimentaires par la relance durable du secteur agricole. Séraphin Kalombo a demandé aux bénéficiaires de bien utiliser ces matériels. Signalons qu'avant cet appui, l'Agence belge de développement a organisé au mois de décembre dernier à Mouneditou le festival alimentaire à l'intention de plus de 80 agriculteurs et paysans des provinces de Lomami et Kasaï Oriental avec pour thème « Ensemble, questionnons notre façon de cultiver et d'habiter la terre, résistons et transformons nos systèmes alimentaires parce que notre avenir se joue dans les assiettes. » Esther Ndalafina Mboujimaï, Radio Okapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où le pont Kachimbe en construction depuis quelques jours a été détruit la nuit dernière dans la cité de Rubaya située à environ 50 km au nord de la ville de Goma. C'est suite à une pluie diluvienne qui s'est abattue sur cette région causant plusieurs dégâts matériels. L'association des jeunes Massissi Monberso demande aux autorités de rétablir le trafic sous la rivière Mwimba, cela pour faciliter la mobilité de la population.
Actualité internationale.
En Somalie, au moins 10 personnes ont été tuées ce samedi matin, parmi lesquelles des acteurs politiques lors d'un attentat suicide revendiqué par les djihadistes Shebab. Le drame a eu lieu dans un restaurant au centre du pays. Selon l'AFP, il y a eu aussi 16 personnes grièvement blessées. Un policier local attribue l'explosion à un kamikaze. À Hong Kong, l'élection du chef de l'exécutif a été repoussée de 2 mois en raison de l'épidémie du coronavirus qui flambe. Dans plusieurs hôpitaux du territoire, des dizaines de malades ont passé plusieurs nuits en plein air, une situation qui illustre à n'en point douter le manque de préparation des autorités qui persistent dans l'approche zéro Covid, alors que le nombre de malades de coronavirus continue d'augmenter chaque jour. Et puis les tensions entre la Russie et l'Ukraine figurent au menu de la conférence sur la sécurité qui réunit à Munich les principaux responsables de la diplomatie mondiale. La
conférence a ouvert ses portes hier après-midi alors que la situation dans l'Est de l'Ukraine est particulièrement explosive. Au même moment, une réunion informelle du G7 se tient à Munich ce samedi.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef de bureau de la MONUSCO Sud-Kivu et Maniema. Karnasoro précise qu'à ce jour, les FARDC sont dans le secteur de Bibokoboko où elles font un travail remarquable et que la MONUSCO ne peut intervenir qu'en cas de besoin. Il s'entretient avec Rachel Kiesembangu.
Monsieur Karnasoro, bonjour.
Bonjour.
Quelque temps après la fermeture de la base temporaire de la MONUSCO à Bibokoboko, il y a eu une attaque attribuée au départ jugé précipité de la MONUSCO. Serait-elle partie trop tôt?
Je pense que dans un premier temps, il faut resituer les choses dans leur cadre. La MONUSCO n'est pas partie de Bibokoboko pour un plaisir de partir. Nous sommes en ce moment sur Bijombo, nous sommes sur Mikenge, nous sommes sur Kaololo, où nous protégeons des populations. Donc la MONUSCO a besoin de ses personnels pour pouvoir supplier à l'absence des FARDC là où elles ne sont pas. C'est le cas de Kaololo. À Kaololo, nous avons des populations qui vivent et il n'y a aucune présence donc des FARDC dans la zone. Et donc nous sommes là-bas pour protéger ces populations. Je ne pense pas que l'attaque doive être attribuée à la MONUSCO, mais plutôt simplement à la haine que certaines personnes vouent à des communautés bien précises.
Qu'est-ce que la MONUSCO avait prévu lors de la fermeture de cette base temporaire à Bibokoboko? Y aurait-il une base près de Bibokoboko?
D'abord, il y a les FARDC à Bibokoboko. Je rappelle qu'aujourd'hui, les FARDC, semble-t-il, ont même perdu des hommes à Bibokoboko. La MONUSCO est ici pour soutenir les FARDC. Je pense qu'il faut recadrer cela. Les FARDC sont sur place. Cela ne dit pas que la présence de la MONUSCO aura empêché ces personnes-là d'attaquer. Elles auraient peut-être attaqué, la MONUSCO aurait appuyé les FARDC pour les repousser, mais ce n'est pas parce que la MONUSCO est partie qu'ils ont attaqué. Les FARDC sont bien présents sur place et ils font un travail remarquable. Je rappelle que le 15, les FARDC ont repoussé l'attaque des Mai Mai. Avant cela, les FARDC ont pourchassé les Mai Mai et récupéré les vaches qui avaient été volées. Donc les FARDC sont sur place. Nous sommes en train de déployer à nouveau dans la zone pour les appuyer. Cette fois-ci, pour les appuyer, pour mener des opérations de ratissage de grande envergure pour assainir l'environnement.
Qu'envisage la MONUSCO dans l'avenir, dans ce processus de retrait progressif, dans ces endroits dont vous êtes responsable, notamment le sud Kivu et les Maniema, pour éviter justement de rumeurs qui salissent d'une certaine manière la réputation de la MONUSCO?
Je pense que il y a un travail qui se fait. Les populations bénéficiaires en sont conscientes. Nous sommes en contact avec ces populations-là au quotidien. Nous étions encore il y a quelques jours à Kaololo. Nous allons retourner encore à Bibokoboko dans 72 heures à la demande de la représentante spéciale. Moi-même, je vais me rendre à nouveau dans cette zone-là. Je crois d'ailleurs qu'il y a certains endroits où je pense que la personne étrangère, la figure étrangère que ces personnes voient le plus souvent, c'est bien les nôtres, bien plus que d'autres personnes qui sont dans des postures éloignées et qui communiquent donc sur les réseaux sociaux. Donc, nous travaillons avec les FARDC pour renforcer leur dispositif. Nous n'abandonnons jamais les populations. Avant de partir, nous nous assurons toujours qu'il y a en place un dispositif FARDC qui prend en charge leur sécurité.
Qu'est-ce qui détermine le retrait ou la fermeture d'une base de la MONUSCO dans une zone?
Lorsque nous déployons quelque part, premièrement, c'est pour aider à, si vous voulez, pacifier la zone. Par la suite, nous travaillons avec les forces nationales pour qu'elles confortent leur posture, leur position. Une fois que leurs positions sont renforcées, nous partons donc pour pouvoir appuyer en cas de besoin. Et donc, c'est le schéma sur lequel nous opérons. Je rappelle que la MONUSCO ne dispose que d'un bataillon de ce côté-là, de 700 personnes. Je rappelle aussi que nous avons des armées professionnelles. Ce ne sont pas des Maïmaï. Donc, on ne déploie pas deux soldats de la MONUSCO ici, trois là-bas, quatre là-bas, cinq là-bas. Non, ce sont des armées professionnelles qui se déploient en articulation. Elles se déploient en section, elles se déploient en compagnie, elles se déploient en bataillon. Et donc, ce ne sont pas des armées qui peuvent se désarticuler sur le terrain. Elles opèrent selon un certain mode opératoire bien précis. Donc, nous travaillons avec les FARDC dans toutes les situations. La MONUSCO a travaillé à appuyer le déploiement de la police nationale congolaise dans cette zone. Les populations peuvent l'attester. Et ce n'est qu'une fois que ces présences étaient consolidées que nous sommes partis. Mais nous ne sommes pas partis, en fait, puisque nous avions des patrouilles dans la zone tous les deux jours, toutes les semaines. Je rappelle encore qu'avant-hier, il y avait une patrouille de la MONUSCO sur place qui a passé la nuit sur place. Et donc, ces personnes ont attendu le départ de la patrouille qui était venue pour réconforter les FARDC, pour attaquer les populations à nouveau.
Monsieur Carnassoro, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Okapi, le chef de bureau de la MONUSCO pour le Sud Kivu et le Maniema. Carnassoro est interviewé à Bukavu par Rachel Kisembangu. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté. Infiniment merci à Noël Aluzitu Kabambi qui l'a supervisé. Retrouvez ce journal sur www.radiokapi.net.